Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La spirale de l'épidémie de Covid-19 en France depuis ce matin, Paris et sa petite couronne ont été placés en état d'alerte renforcée et maximale. Avec quelles conséquences? Nous détaillerons dès le début de ce journal les nouvelles mesures de restriction.
Et toujours dans votre journal, nous irons évidemment dans les Alpes-Maritimes, trois jours après le passage meurtrier de la tempête Alex.
Oui, là-bas, les secours continuent toujours et encore à rechercher des disparus tout en organisant l'évacuation des plus vulnérables.
Le deuxième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, marqué hier par une courte victoire du non et une participation historique.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, dans une vingtaine de minutes, le député UDI Philippe Gomez.
C'était il y a un an, les corps sans vie de 39 migrants vietnamiens étaient retrouvés à l'arrière d'un camion à Londres.
Quatre hommes comparaissent aujourd'hui devant la justice britannique. Enfin, le prix Nobel de médecine 2020, année de la pire pandémie depuis un siècle, a été attribué ce matin conjointement à deux Américains et un Britannique pour la découverte du virus de l'hépatite C. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Le coût de la pandémie, pas économique mais démocratique. Y a-t-il encore une place pour l'éthique en temps de crise? Nous en parlerons avec notre invité, le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay. Il vient de diriger un vaste ouvrage collectif au CERF, Pandémie 2020, éthique, société, politique. Il sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Après trois jours de vrai-faux suspense, les autorités se sont donc rendues à l'évidence face à la progression inquiétante de l'épidémie et l'aggravation de la situation sanitaire. Depuis ce matin, Paris ainsi que trois départements de la Petite Couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, ont tous basculé en zone d'alerte maximale. Première conséquence quasi immédiate, tous les bars et cafés fermeront dès demain et ce pour deux semaines. Les restaurants, en revanche, pourront rester ouverts mais au prix d'un protocole renforcé. Autre restriction, elle concerne les amphithéâtres des universités. Ceux-ci ne pourront être remplis qu'à hauteur de 50% de leur capacité maximum. Enfin, le gouvernement rappelle la nécessité de privilégier plus que jamais le télétravail. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce matin, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, accompagnée du préfet de police Didier Lallement, tenait donc une conférence de presse pour préciser toutes ces mesures prises par arrêté.
Et même une longue conférence de presse de trois quarts d'heure sans question, avec des déclarations du préfet de police de Paris Didier Lallement et de la maire de Paris Anne Hidalgo, vous l'avez dit, mais pas seulement. Le préfet d'Île-de-France Marc Guillaume, le directeur général de l'ARS Île-de-France Aurélien Rousseau et le recteur d'Île-de-France Christophe ont également pris la parole. L'idée, c'est de justifier techniquement chacune des mesures prises, sortir de la polémique politicienne et donner l'image de dialogue entre les différentes institutions. La plus importante mesure annoncée, c'est la fermeture des bars. Voici comment Didier Lallement la justifie.
Nous franchissons une nouvelle étape, de la même façon que nous l'avons fait au cours de ces 10 derniers mois. Tout cela est normal, c'est la preuve que nous nous adaptons sans cesse à la réalité de l'épidémie, à la réalité du virus, et qu'il faut en permanence trouver cet équilibre entre la préservation de la santé de nos concitoyens et la réalité et les nécessités de la continuité de la vie économique et sociale.
Arrive ensuite la justification sanitaire du responsable de l'ARS avec des données épidémiques assez inquiétantes, puis la synthèse de la maire de Paris.
Nous avons tous conscience que nous entrons dans une phase nouvelle parce que, évidemment, ce virus est là durablement, percute nos vies et que nous devons travailler tous ensemble, d'abord pour protéger les plus fragiles, cela a été dit, en mettant en place tous les dispositifs. Je pense bien sûr aux EHPAD, mais aussi à toutes les personnes âgées à domicile, à toutes les personnes en situation de handicap, et aussi à toutes les personnes, nous le savons, qui, parce que en situation de précarité, en situation d'isolement, sont aussi parmi les plus vulnérables.
En dehors des mesures détaillées que l'on connaissait déjà en grande partie, le but de la conférence de presse était de désamorcer toute polémique en donnant l'image de décideurs unis, main dans la main, la ville aux côtés de l'État, et c'est ça, loin de ce qui s'est passé la semaine dernière à Marseille.
Merci Antoine Maret. Alors évidemment, la question principale demeure toujours et encore la même, comment éviter que l'épidémie ne devienne hors de contrôle, tout en préservant au mieux l'économie. Ce matin, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a appelé l'État à être là pour compenser les pertes de recettes des bars et cafés, en promettant que la région serait elle aussi à leur côté. Toujours est-il que les professionnels du secteur, hôtellerie comprise, étaient déjà à 20% d'activité en moins en cette rentrée sur tout le territoire et encore davantage à Paris où les touristes internationaux ne sont pas revenus. C'est donc un nouveau coup dur, un acharnement sur une profession, s'indigne même Thierry Fontaine, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Nuit France, lequel pointe les défaillances de l'État, il le dit à Marie Viennot.
On avait un nombre de lits en mars. Tout le monde s'est fait surprendre, donc on ne peut pas avoir de jugement sur un gouvernement, aussi bien sur les stocks de masques, sur les lits de réanimation, sur plein de choses. Depuis mars, maintenant on est en octobre, on a eu le temps de s'organiser. On connaît le virus, on sait sa dangerosité, on sait sa capacité à infecter, on connaît les asymptomatiques, on a quand même un petit peu plus de recul. On n'a peut-être pas 10 ans de recul dessus, mais on a un petit peu plus de recul. Est-ce qu'il aurait été pas judicieux de renforcer les moyens des hôpitaux, aussi bien en personnel qu'en matériel, en nombre de lits, en respirateurs, de façon à appréhender cette deuxième vague avec un peu plus de sérieux. Je pense que là aussi, on a un problème, se baser sur le nombre de lits en réanimation qui ne sont pas du fait des professionnels de la restauration, puisque c'est eux qu'on va fermer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de capacité en hôpitaux. Donc ça, c'était à l'État de régler ça. C'était pas aux professionnels de la restauration que de mettre leur lit dans les hôpitaux pour dire « je vous donne un lit, ça vous en fera un plus ».
Donc vous prenez, vous, plutôt ouverture de tous les établissements, mais plus de contrôle ?
Complètement. Ouverture des établissements avec des protocoles sensés et raisonnables. Et on contrôle et on sanctionne les mauvais élèves. On ne peut pas faire payer l'intégralité d'une profession parce qu'il y a quelques mauvais élèves.
Thierry Fontaine, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Nuit France, joint au téléphone par Marie Viennot.
France Culture, midi 37, la suite de votre journal, Thomas Cluzel. 2 jours après le déluge qui s'est abattu sur le sud-est de la France et le nord de l'Italie, le dernier bilan humain fait état d'au moins 6 morts. Une 20aine de personnes sont par ailleurs toujours portées disparues.
Et à cela s'ajoutent encore des centaines de sinistrés privés de tout, eau, électricité, alimentation, sans oublier partout les mêmes scènes de désolation, routes coupées, voitures couchées dans le lit des rivières et des maisons littéralement englouties dans le tumulte des eaux boueuses. 1 millier de sapeurs-pompiers sont toujours déployés sur place et grâce au balai incessant des hélicoptères, un pont aérien devrait permettre de poursuivre aujourd'hui les évacuations. Ce matin, 10 de tonnes de produits de première nécessité ont été acheminées dans les vallées de l'arrière-pays niçois, dévastées par ces crues exceptionnelles. À Saint-Martin-Vésubie, l'une des communes les plus touchées là-bas, une personne est décédée, les dégâts sont considérables et pourtant les habitants sont encore partagés. Faut-il rester ou quitter définitivement le village? C'est un reportage signé Farida Noir.
Des ponts effondrés, une partie du cimetière emportée, plus d'eau, plus d'électricité, des maisons au bord du précipice, 38 autres englouties par la rivière. Celle de Nicolas en fait partie. Le jeune homme ne possède plus rien et ne voit plus aucun avenir dans le village où il est né.
Je pense qu'on sera obligé de partir malheureusement. On ne peut plus rien construire, quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais devenir, moi, ma femme, pas que, tous les gens du village, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi.
Non, le village n'est pas condamné.
Stéphane, un autre habitant, lui, veut garder espoir. Le village mettra du temps à se reconstruire, mais il y arrivera.
Il a pris un coup dur, mais on fera ce qu'il faut pour se relever. Moi, personnellement, je me battrai, quoi. Je resterai tant que je peux rester, je reste. Et tant que je peux aider, j'aide.
Michel, un enfant du pays, veut aussi retrouver Saint-Martin-Vésubie comme avant. Il ne partira pas.
Il y a des hélicoptères de partout, il y a des pompiers de partout, il y a l'armée, tout ça, mais bon, ça va pas se réparer en un jour. Après, il faudra du temps, il faudra de la patience, il faudra beaucoup de travail, mais vous mettez un pied devant l'autre et puis vous redémarrez, de toute façon, il n'y a pas le choix.
Et bonne nouvelle, ce matin, une route a été réparée et dégagée. Elle devrait permettre ainsi de désenclaver progressivement le village et d'entamer peut-être sa reconstruction.
Les insecticides tueurs d'abeilles, de retour à l'Assemblée, les députés sont appelés à se prononcer aujourd'hui et demain sur le projet de loi controversé permettant la réintroduction temporaire des fameux néonicotinoïdes pour préserver la filière betterave. Et ce, en dépit de la ferme opposition des pro-environnement. Toujours est-il qu'avec ce texte, le gouvernement est désormais accusé de brouiller son message sur la transition écologique. Rappelons que ces pesticides avaient été interdits en France en 2018, une exception que les autorités justifient aujourd'hui par la sauvegarde d'une filière qui emploie 46 000 personnes. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le débat pourrait aujourd'hui se résumer ainsi, respecter une promesse environnementale ou sauver l'emploi sur fond de crise économique. Et la même question, Anne-Laure, pourrait bien désormais se poser s'agissant de la benfluraline, un herbicide utilisé pour les endives et interdit par l'Union européenne.
Oui, en témoigne cette lettre que Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, vient d'adresser au ministre de l'Agriculture, une lettre qui demande la permission de pouvoir utiliser à nouveau une substance herbicide pourtant interdite par l'Union européenne, vous venez de le dire, la benfluraline. Cette substance n'est pas un néonicotinoïde, elle appartient à la catégorie des toluidines et sa nocivité a été prouvée sur les hommes et les animaux au-delà d'un certain seuil. La lettre explique que les dernières évaluations de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, ont permis de lever les doutes sur les risques et qu'ainsi on pourrait donc réautoriser cette substance que n'ont plus le droit d'utiliser les cultivateurs d'endives et de haricots dont la région Hauts-de-France est respectivement la première et deuxième productrice française. Une demande qui utilise les mêmes arguments que pour la filière betterave. Premièrement, dit Xavier Bertrand, il faut donner aux agriculteurs le temps de trouver des alternatives. Deuxièmement, la lettre met en avant les emplois de la filière qui pourraient, là encore, disparaître si la benfluraline continuait d'être interdite.
Alors cet argument, l'argument économique, donc, cache, Anne-Laure, une réalité beaucoup plus complexe.
C'est particulièrement vrai pour la betterave à sucre, dont le marché s'est effondré en 2018 avec la fin des quotas européens de sucre, entraînant une baisse des prix, la fermeture d'usines sucrières en France et une grave crise interne chez le plus gros sucrier français, Tereos. Cette libéralisation du marché est allée de pair avec une surproduction mondiale et avec elle le traditionnel cercle vicieux, produire encore plus pour espérer gagner un peu plus. Les emplois de la filière déjà bien affaiblis tiennent donc plus à la situation du marché qu'à l'autorisation ou non de substances toxiques pour la culture. Ouvrir la boîte de Pandore, comme craignent les écologistes, de la réautorisation de substances interdites, cela va-t-il sauver des emplois? C'est à cette aune qu'il faudra réexaminer la situation dans quelques mois. Beaucoup d'ores et déjà en doute.
Merci Anne-Laure Chouin. Face à l'appétit de Veolia, l'horloge tourne pour son concurrent et rival Suez. Aujourd'hui en effet que le grand actionnaire Engie doit décider s'il accepte ou non de vendre ses parts. Alors tout le week-end, négociations et escarmouches ont continué. Seule certitude, l'offre améliorée de Veolia qui propose près de 3,5 milliards de dollars à Engie pour acquérir un peu moins d'un tiers de Suez court jusqu'à ce soir minuit.
Que savait-il des projets des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, Thomas?
Et après avoir entendu victimes et enquêteurs, la Cour d'assises spéciale de Paris interroge à partir d'aujourd'hui les accusés soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux frères Kouachi et Hamidi Koulibaly. Des accusés qui, depuis l'ouverture de ce procès, il y a un mois, ont tous condamné des actes monstrueux et assuré n'avoir jamais adhéré à l'idéologie djihadiste. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Ce matin, le premier des accusés à avoir été interrogé se nomme Willy Prévost. Il avait été l'un des tout premiers suspects interpellés dans ce dossier tentaculaire et en particulier après la découverte de son ADN dans la voiture utilisée par Hamidi Koulibaly pour se rendre à l'hypercacher.
Association de malfaiteurs, ok, mais terroriste, non. Ce qu'il a fait, c'est atroce, c'est un monstre. Willy Prévost assume la matérialité des faits, mais dément avoir été au courant des intentions terroristes d'Hamidi Koulibaly. Koulibaly, le grand du quartier de Grigny, où il a grandi lui aussi. On a commencé par de petits trafics de drogue et ça se passait bien, commence l'accusé, blouson gris, chauve, 34 ans, jusqu'à cette affaire qui tourne mal. Et je me suis fait tabasser par Hamidi Koulibaly, poursuivre Willy Prévost, à sa sortie de prison en 2014, il est revenu me voir, toujours pour me réclamer de l'argent, une dette estimée à 30 000 euros. Et Willy Prévost admet avoir acheté 3 gilets tactiques, 2 couteaux, 2 gazeuses, un taser, enlevé le tracker de la moto d'Hamidi Koulibaly, acheté aussi la Renault Scénic utilisée par le terroriste pour se rendre à l'hypercacher et dans laquelle on retrouve ses empreintes digitales, voiture achetée sous un faux nom avec une carte d'identité fournie par Koulibaly. Et vous ne vous doutez de rien, questionne le président. Monsieur le Président, moi j'habite dans un quartier, 90% des gens qui ont des voitures, elles sont pas à leur nom. Les quartiers où l'on traîne, on galère, explique-t-il. Ils s'animent au fur et à mesure de l'interrogatoire, ça parlait argent mais pas religion. Antisémite, je connais pas tout ça, j'ai pas grandi avec une haine envers d'autres humains. Les questions de la partie civile se font plus incisives sur les nombreuses rencontres avec le tueur de l'hypercacher, leur ligne téléphonique dédiée, et lui répète, agacé, essayez pas de me mettre un bonnet qui n'est pas à ma taille. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis pas un terroriste.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Martin Traudec pour les moyens techniques. Il sera évidemment le grand absent à la barre. Aujourd'hui s'ouvre devant le tribunal judiciaire de Paris le procès du système d'assaut du nom de l'axe industriel de l'armement décédé en 2018. Durant 3 semaines, 6 personnes dont l'ex-maire de Corbeil-Essonne et bras droit de Serge Dassault donc vont comparaître. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à une entreprise généralisée de corruption à l'échelle de la commune.
Midi 45 sur France Culture. Près d'un an après l'effroyable découverte de 39 migrants vietnamiens morts dans un camion frigorifique en Angleterre, 4 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui, Thomas, à Londres.
Et précisons tout de suite que les 2 principaux suspects, le chauffeur du camion dans lequel les corps avaient été retrouvés d'une part et un Nord-Irlandais soupçonné d'avoir organisé le mouvement des chauffeurs participant au trafic d'autre part feront l'objet d'une audience ultérieure pour déterminer leur peine après avoir plaidé coupable. S'agissant à présent des 4 hommes donc, dont le procès s'ouvre aujourd'hui, tous sont poursuivis pour homicide involontaire ou aide à l'immigration clandestine et malgré des preuves a priori accablantes, tous contestent les infractions qui leur sont reprochées. Les précisions à Londres de notre correspondant Richard Place.
Jeune chauffeur routier, originaire d'un village d'Irlande du Nord, Eamon Harrison se retrouve aujourd'hui devant la justice. À 23 ans, il est l'un des maillons de ce trafic macabre. Il est celui qui avait conduit le camion jusqu'au port belge de Zeebruges. La vidéosurveillance ne laisse aucun doute, de même que sa signature sur le bordereau d'embarquement. Le véhicule et les 39 Vietnamiens à son bord a ensuite effectué la traversée sur un bateau pour rejoindre l'Angleterre, l'Eldorado devenu enfer. Que savait Harrison de cette cargaison? Jusqu'à quel point était-il impliqué dans ce trafic? C'est ce que les 6 semaines d'audience doivent définir. Jusqu'ici, le jeune homme nie toute culpabilité. Ses avocats n'ont pas réussi à lui éviter l'extradition vers Londres après son arrestation à Dublin. Il n'avait opposé alors que des arguments de forme. Face aux preuves accablantes, Harrison va donc se défendre en expliquant qu'il ne savait rien de ce trafic, rien de ces 39 malheureux enfermés dans un conteneur qu'il transportait. Il est aujourd'hui accusé d'homicide involontaire, trafic d'êtres humains et aide à l'immigration illégale. Il risque la prison à perpétuité.
Au 9e jour du conflit dans le Haut-Karabakh, les bombardements s'intensifient assortis d'accusations et de démentis mutuels, en particulier l'Arménie et l'Azerbaïdjan se renvoient aujourd'hui la responsabilité d'attaques visant des zones civiles. C'est le cas notamment dans la capitale de l'enclave séparatiste où les habitants se terrent recroquevillés dans l'angoisse. Précision sur place de notre envoyé spécial Claude Brouillot.
Dès 6h ce matin, le centre de la capitale arménienne du Haut-Karabakh a été à nouveau la cible de bombardements, d'abord sporadiques, puis qui se sont fortement intensifiés durant le milieu de la matinée. Pendant 2 heures, drones et artillerie azerbaïdjanais ont littéralement pilonné Stepanakert. Ce qui reste de civils se calfeutre dans les caves des maisons. En quelques minutes, dans notre hôtel, une centaine de réfugiés est venu prendre un peu de répit au sous-sol de l'établissement avant d'espérer trouver des véhicules pour quitter l'enclave. À la différence des jours précédents, d'après les témoignages de volontaires arméniens sur place, ce sont maintenant les tirs d'artillerie qui sont les plus nombreux. Difficile de se rendre compte, même depuis les étages supérieurs de notre hôtel, où se situent les plus gros dégâts. Un épais brouillard, en effet, est descendu très bas sur la ville, une enveloppe grise et pluvieuse qui rend les prochaines heures sur place encore plus incertaines.
Comme chaque année, la médecine ouvre ce matin une saison des Nobel pleine de suspense, mais plus encore en pleine pandémie, la pire depuis un siècle. La récompense accordée ce matin devait illustrer à quel point la science est vitale. Le prix a finalement été attribué à 3 virologues, le britannique Michael Hutton et les américains Harvey Alter et Charles Rice pour leur rôle dans la découverte du virus responsable de l'hépatite C. C'est donc la récompense d'une victoire collective de virologues, se réjouit notamment le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine.
Ces travaux étaient extrêmement précurseurs. Ils ont permis de mettre en évidence un virus que l'on ne savait pas cultiver, dont on a découvert finalement les propriétés par les moyens de la biologie moléculaire. On a découvert l'organisation de ce virus, on a découvert son mode de réplication, et puis avec le temps, on a découvert des médicaments qui s'avèrent efficaces. Et là, il faut vraiment saluer ce travail des virologues qui, au cours de ces années, ont réussi à vaincre l'hépatite C, que l'on sait maintenant guérir par des médicaments antiviraux. C'est un virus transmis par le sang, essentiellement, les personnes qui avaient besoin de transfusion sanguine, les insuffisants rénaux qui avaient besoin de dialyse. Et puis aussi, bien sûr, c'est une infection qui s'est très largement répandue dans les usagers de drogues intraveineuses en particulier. Il y a des recherches pour un vaccin, parce qu'on aura sans doute besoin d'un vaccin pour compléter l'éradication, peut-être un jour, de cette hépatite C. Mais le prix Nobel couronne cette longue marche sur 30 ans qui partit de la mise en évidence du virus, de la découverte du virus, jusqu'à la victoire thérapeutique sur l'hépatite C chronique. C'est un très très grand succès de la médecine.
Voilà, le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine, joué en téléphone par Cécilia Arbonin.
Et l'invité de la seconde partie de la grande table, de la grande table des idées, le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. On va se retrouver dans quelques minutes pour évoquer ensemble les questions éthiques liées à la pandémie de coronavirus. Un mot sur ce prix Nobel de médecine 2020. Une longue marche, disait à l'instant l'invité du journal, qui a toutes ces questions, pose aussi la question du coût, mais du coût en termes éthiques pour vous ?
Du coût de la molécule, puisque aujourd'hui on peut traiter, et la molécule coûte 46 000 euros, donc ça pose quand même un problème. Il y a à peu près 70 millions de personnes qui sont affectées par l'hépatite C, souvent c'est des personnes en situation de précarité, et on estime qu'à peu près 400 000 personnes décèdent chaque année. Alors je le mettrai au regard de la réflexion sur le vaccin par rapport au Covid-19, qui lui ne coûterait pas, puisque finalement l'État s'investit dans ce domaine. En tous les coûts des molécules, notamment anticancéreuses, toutes les nouvelles molécules innovantes, ça pose un problème éthique fondamental sur la soutenabilité finalement de l'accès de ces molécules aux personnes, encore une fois, dans les pays quelquefois les plus vulnérables.
De qui va pouvoir en bénéficier de ces traitements-là ? En tout cas, c'est une bonne chose que ce prix Nobel de médecine revienne aux chercheurs qui réfléchissent, travaillent, découvrent peut-être de quoi soigner, remédier au virus.
C'est un signal en tous les cas fort au moment où en France on commence à lancer le recrutement des volontaires pour un candidat vaccin.
Merci Emmanuel Hirsch, à tout de suite. Thomas Cluzel, la suite du journal.
Quand la Nouvelle-Calédonie choisit de rester française, hier à l'occasion d'un deuxième référendum sur son avenir, le territoire du Pacifique a dit non à l'indépendance à 53,26% des voix. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Philippe Gomez, député UDI de Nouvelle-Calédonie. Bonjour monsieur. Vous nous entendez, monsieur Gomez ?
Bonjour.
Bonjour monsieur, à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Précision, monsieur Gomez, vous faites partie des loyalistes. On imagine donc que vous êtes plutôt content que le non l'ait emporté. Pour autant, est-ce que c'est un si bon résultat ?
Non, pas vraiment. Bien sûr, je suis content qu'à la sortie, la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la République française. Pour autant, on a perdu quasiment 3,5 points de participation en faveur du non depuis 2018, lors du dernier référendum qui s'est tenu. On a quasiment vu notre avance, on avait 18 000 voix d'avance par rapport au oui, et notre avance est passée de 18 000 voix à 10 000 voix. Donc, quelque part, c'est une victoire, bien sûr, mais elle a quand même un goût amer.
Quelles sont les conséquences, monsieur Gomez, de ce resserrement de l'écart entre le oui et le non par rapport à 2018 ?
Les conséquences sont nombreuses. La première des conséquences, c'est que les indépendantistes peuvent être incités à demander un troisième référendum. Une fois qu'un délai de 6 mois s'est écoulé, ils ont la capacité à le faire au terme de l'accord de Nouméa et de la constitution de la République française. Et si tel était le cas, ce troisième référendum doit être organisé au plus tard en octobre 2022. Comme ils ont gagné 3,5 points entre le référendum de 2018 et celui de 2020, ils peuvent légitimement se dire encore un dernier coup de rein et on peut gagner les 3,5 points qui nous manquent aujourd'hui pour devenir un État indépendant en 2022. Le deuxième élément, c'est que bien sûr, ça crée une dynamique positive en faveur de l'indépendance. Vous savez, quand un mouvement comme ça progresse de plus de 10 000 voix, augmente de 20% son score en 2 années d'écart, ben bien évidemment, ça crée une dynamique globale. Et puis, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand il y a une dynamique positive qui se crée, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas automatiquement dans ce camp-là, ben, qui finissent par le rejoindre. Donc tout ça met la Nouvelle-Calédonie française telle qu'on la connaît aujourd'hui dans une position un peu périlleuse par rapport à une troisième échéance qui pourrait se tenir, comme je l'ai dit, au plus tard en octobre 2022.
Emmanuel Macron a pris la parole hier pour appeler tout le monde au dialogue. Il a dit qu'il convenait d'envisager tous les scénarios, notamment que le oui puisse l'emporter. Qu'est-ce que vous attendez des discussions qui vont s'ouvrir ?
Emmanuel Macron a eu raison de prendre l'initiative et de reprendre le dossier à bras-le-corps. Je dis reprendre parce qu'à un moment, l'État a été extrêmement investi sur le sujet. Lorsque Édouard Philippe est venu en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année 2017, lorsque le président de la République est venu en mai 2018, ils avaient à trouver à la fois les mots et les attitudes pour faire en sorte que le dossier calédonien puisse continuer à avancer de manière consensuelle. Depuis quelque temps, on était visiblement sorti du champ de vision de l'État, et je crains hélas que si l'État ne se réinvestisse pas véritablement, on ait des difficultés au plan local. Je rappelle que si nous avons réussi à signer ensemble entre indépendantistes et non-indépendantistes ces 30 dernières années, depuis la signature des accords de Matignon entre Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Michel Rocard, c'est bien parce que l'État s'est très fortement investi. Michel Rocard, qui avait mis sa griffe sur les accords de Matignon et qui avait été un puissant moteur pour permettre la conclusion de ces accords, au même titre que Lionel Jospin, en 98, a été un acteur majeur du processus de l'accord de Nouméa. Donc on a besoin d'un investissement fort de l'État au plan politique pour continuer à avancer entre Calédoniens. L'État est un acteur de l'accord de Nouméa, un acteur du processus engagé et pas simplement un greffier. C'est bien qu'Emmanuel Macron l'ait rappelé hier, et décider que désormais un dialogue nourri devait s'engager à la fois sur les conséquences du oui, mais également sur les conséquences du non. Je crois que c'est une initiative heureuse.
Et nous en resterons là, malheureusement, Philippe Gomez, en raison d'une mauvaise liaison. Philippe Gomez, député UDI de Nouvelle-Calédonie, merci toutefois d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Encore pluvieux sur la majeure partie du pays, à l'exception du pourtour méditerranéen, où l'on appréciera le retour des éclaircies, de même que de la Bretagne. Au Poitou-Charentes, notons que le département de la Manche reste en vigilance orange pour pluie, inondation. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.